Maintenant, c'est un plaisir de présenter Stéphane Conversi, qui est professeur à ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile. Et ça fait 25 ans qu'on s'est rencontrés. Et il va parler de son travail là-bas avec les situations critiques.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci, Wendy, de m'avoir proposé de présenter donc, la continuité des travaux qu'elle a montrés, c'est-à-dire de la conception participative, donc dans un domaine particulier qui est l'aéronautique. Donc effectivement, je suis professeur d'informatique et d'interaction humain-machine à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Et donc du coup, j'embraye directement, avant de vous présenter des choses vraiment sur la notion d'aéronautique et sur ce qu'on doit faire dans ce domaine pour arriver à faire des systèmes qui marchent. Donc j'ai décidé là, de montrer immédiatement derrière donc, ce qu'a fait Wendy et ses collègues avec Caméléon, qui était le prototype présenté. Et effectivement, alors avec mes collègues, Catherine Letourdal, Christophe Hurter, Rémi Lesborne et notamment Jean-Luc Vineau, on a continué à travailler sur ces aspects. Donc, qui est comment est-ce qu'on peut. Alors, je vais lancer la vidéo normalement. Voilà. Alors. Donc, comme l'a dit Wendy, hein, les strips, jusqu'à encore récemment, étaient très utilisés, notamment pour faire ce genre de choses-là, donc gérer, organiser, planifier et travailler de façon collaborative. Et en fait, ce qu'on a fait avec le système dont vous avez vu un petit aperçu tout à l'heure, c'est que, eh bien, effectivement, les technologies qui n'étaient pas disponibles à l'époque sont devenues disponibles, et notamment une technologie particulière qui a été, donc une instance a été faite par une société qui s'appelle Anoto, donc qui a un stylo un petit peu spécial, puisqu'il a il laisse de l'encre, comme un vrai stylo, et il a une caméra, et cette caméra lui permet de regarder ce que le stylo est en train de dessiner, d'une certaine manière. Et cette caméra est capable de... alors, je vais vous montrer... Voilà. Vous voyez, ça, c'est un strip papier qui est là-bas, un strip paper. Et il y a un tout petit... Je ne sais pas si vous arrivez à discerner, il y a une toute petite trame avec des petits points qui fait que cette petite trame, en fait, elle est captée par une caméra qui est à l'intérieur du stylo. Alors, je ne vous cache pas que le stylo est un tout petit peu plus gros que le stylo qu'utilisent les contrôleurs, mais ça lui permet de savoir où est-ce qu'on dessine, et donc d'avoir une trace à la fois avec de l'encre sur le papier et à la fois qui peut être envoyée dans un système automatique. Alors, l'idée de ça, c'est ça, c'est que non seulement on peut le faire sur le strip, mais on peut mettre une trame transparente sur l'écran et donc aller agir sur l'écran avec le stylo Anoto pour, là aussi, par exemple, désigner un vol, et puis lier, effectivement, comme l'a dit Wendy, les deux représentations. Alors l'autre intérêt, c'est, Wendy l'a un peu dit, c'est que ces strips, en fait, vous avez vu, on les tient en main, on les pose ailleurs, et on pouvait les passer aussi à d'autres contrôleurs, sur d'autres positions de contrôle, et en fait, ils sont toujours interactifs, c'est-à-dire qu'en tenant le papier dans la main, je peux toujours interagir avec, en utilisant le stylo, et continuer soit à désigner des zones particulières du strip, soit à dessiner des choses sur ces strips. Donc voilà, donc l'intérêt de cette technologie, c'est d'associer des choses qui existent déjà, pour lesquelles on a une forte confiance et surtout une technicité d'interaction. Effectivement, c'est de l'interaction avec un système qui ne fait pas grand-chose, un papier, mais qui vous permet d'être hyper efficace. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le contrôle aérien. Il faut savoir que, par exemple, les contrôleurs, les contrôleuses, elles sont formées à l'ENAC pendant 2 ans, on va dire, et puis après, on les envoie en centre. Et là, à nouveau, ils sont formés sur des secteurs, des zones très particulières, et il faut monter en compétences pour être ensuite qualifié. Alors, monter en compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à faire en sorte que non seulement on réussisse à faire passer le trafic en toute sécurité, mais tout le trafic, et donc faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'avions qui passent. Et ça, ça demande une activité... alors, en général, ça dure 2 heures, hein, les tours comme ça, on contrôle pendant 2 heures parce que c'est une activité qui demande énormément d'attention et beaucoup de technicité. Voilà. Et donc le moindre problème d'interaction met en péril d'une certaine manière, alors sans doute pas, ça peut mettre en péril la sécurité, mais surtout ça va mettre aussi en péril la capacité, c'est-à-dire le fait de faire passer beaucoup de trafic. Voilà, donc ça, c'est un projet que nous avons mené il y a une dizaine d'années maintenant. Alors je ne vous explique pas toutes les choses, mais derrière le strip, il y a aussi ces marqueurs qui nous permettent de voir où sont positionnés les strips sur le tableau de strip. Le strip en lui-même est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le tableau et l'organisation du tableau. Et voilà, et donc ça donne ce genre de choses. Alors là, c'est une interaction particulière où vous voyez, on déplace les strips, le système est capable de repérer que les strips ont été déplacés, et en les positionnant à un endroit particulier, vous voyez qu'on ajoute des informations sur le tableau de strips. Alors il y a aussi, non seulement il y a des caméras qui filment les strips pour savoir où ils sont positionnés, mais il y a en plus des rétroprojecteurs par-dessus et par-dessous pour ajouter des informations. Alors, je ne sais plus si tu as déjà parlé de réalité augmentée. On entend beaucoup parler de réalité virtuelle. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on entend parler, la différence, c'est un casque où on ne voit rien, réalité virtuelle, enfin, on ne voit pas à l'extérieur. Et réalité augmentée, c'est un casque où on voit dehors. Mais la réalité augmentée, c'est plus que ça, en fait. C'est plus que juste ajouter des informations sur des lunettes. C'est ajouter des capacités à des systèmes tels que ceux-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capacité a priori informatique, de calcul ou de réaction. Et on ajoute ces capacités par l'intermédiaire notamment de vidéos, mais aussi de moyens d'interaction. Voilà, donc ça c'était pour faire la suite hein, des travaux de Wendy. Alors, je reviens juste un petit peu là-dessus, c'est que cette technique d'interaction que je viens de vous montrer là, avec la vidéo où on déplace les strips et on affiche des informations pour résoudre un problème particulier de trafic, tout cela a été défini aussi en collaboration avec des contrôleurs qui ont travaillé avec nous, avec les techniques de conception participative qu'a décrites Wendy. Alors, juste pour vous montrer, là, je vous ai un peu parlé quand même déjà de certains concepts dans l'aéronautique qui sont importants, la sécurité, l'efficacité notamment. J'aurais juste fait un point quand même sur l'aéronautique et ce qu'on essaie de faire. Alors, on a une finalité et on a un défi à relever. Alors la finalité, sans doute vous la connaissez, on sait tous à quoi sert l'aéronautique. Notamment, la première chose à laquelle on pense, c'est le tourisme et la découverte d'autres pays, d'autres planètes, la rencontre avec d'autres cultures, le fait d'être expatrié et de revenir, ou le fait de transporter des choses. Hein, ça, c'est une grosse activité aéronautique. Et là, je ne vous ai pas mis n'importe quelle photo, c'est le transport de masques pendant une période qu'on a connue il y a très peu de temps, voilà, voire le transport sanitaire. Donc, qui permet à des gens finalement de survivre grâce à un transport rapide et très très long en fait en distance. Et ça peut être simplement évidemment l'aéronautique générale juste pour le plaisir de voler. Alors je n'ai pas choisi cette photo-là par hasard non plus. La grande problématique de l'aéronautique d'aujourd'hui, c'est son impact sur l'environnement. Donc vous voyez, j'ai mis une photo où on a l'impression qu'on n'a pas d'impact. Alors c'est possible sur ce genre d'appareil maintenant. On commence à avoir des appareils électriques. Alors qu'ils n'ont pas d'impact localement, hein, mais qu'on commence à utiliser à l'ENAC dans la formation des pilotes. Voilà. Alors, évidemment, l'impact est plus fort que ça. Voici un autre impact qui est celui de ce qu'on appelle les contrails, donc qui sont les jets de vapeur qu'on voit quand l'avion est à très haute altitude, qui est sans doute le problème le plus important de l'aéronautique aujourd'hui. En termes de forçage du réchauffement du climat. Donc ça, c'est devenu très important, et les projets d'aujourd'hui en aéronautique intègrent beaucoup cet aspect-là, voire c'est la majeure partie. Alors il y a quand même une chose qui reste dans l'aéronautique, c'est le premier critère de l'aéronautique, notamment commerciale, c'est la sécurité. Alors là, je vous ai mis le fameux vol qui a atterri dans l'Hudson à New York, mais c'est le premier critères, si vous voulez, de tous les systèmes que l'on fait et de toute l'activité que l'on fait, c'est faire en sorte qu'on ait une grande sécurité au niveau des opérations. Donc voilà notre mission, transport aérien, en sécurité, donc pas d'accident, en sûreté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'attaque, notamment de la part soit terroriste, soit avec des cyberattaques ou ce genre de choses-là, et puis donc en minimisant les nuisances, en particulier sonores et atmosphériques, et donc bénéficiant à toutes. Donc voilà, maintenant que j'ai posé le cadre, qu'est-ce qu'on utilise en aéronautique? Alors vous connaissez sans doute évidemment ce genre d'appareil, ce genre de système. Là, c'est typique d'un appareil commercial d'aujourd'hui. Donc vous voyez, avec plein d'écrans, de boutons, de lumière, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver à bord. Ça, c'est ce qu'on peut trouver au sol. Ça, c'est une photo très récente du centre de contrôle en route sud-ouest, donc à Bordeaux. Donc vous voyez, on a des grandes images radar qui ont été fluifiées pour ne pas voir le trafic ici, mais deux grandes images radar, deux personnes qui vont contrôler ensemble. Et je reviendrai sur cette image tout à l'heure. Et puis, sans doute, ce que vous connaissez plus, qui sont les fameuses tours de contrôle. Mais de façon similaire, avec beaucoup de systèmes, d'écrans et de dispositifs d'interaction. Alors, nous, on part d'un constat, c'est que le système de transport aérien, c'est un système hybride, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des automatismes, il y a des machines et il y a des humains. Et en fait, l'un des critères de performance, en tout cas un des facteurs de performance, c'est la qualité des interactions qu'il existe entre les humains et ces sous-systèmes hybrides humain-machine. Et ça, ces interactions, il faut qu'elles aient lieu évidemment en conditions nominales, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il faut aussi qu'elles aient lieu de la façon la meilleure possible dans des conditions qui ne sont pas nominales. Donc par exemple ici, dans des conditions de faible visibilité sur une tour de contrôle, ou alors à l'intérieur d'un avion, quand on a des turbulences, voilà, il faut pouvoir continuer à agir sur les systèmes. Et alors là, on voit très mal, malheureusement, mais on a ici un incident avec de la fumée dans le cockpit, donc il faut pouvoir interagir aussi dans ces conditions. Et alors, je ne sais pas, mais vous avez peut-être vu dans cette image-là, voilà, donc là, on a de plus en plus d'écrans, on a de plus en plus de tactile, et il faut s'imaginer pouvoir agir en tactile dans des conditions de turbulence et dans des conditions où vous avez de la fumée, vous ne voyez rien. C'est-à-dire que tout à coup, vous ne savez plus où vous touchez. D'accord ? Voilà, donc c'est ce genre de problématique qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait des interactions pour ce genre de système et dans ce genre de conditions. Alors, et le défi de l'aéronautique, c'est ça, c'est l'amélioration continue. Il faut toujours plus de sécurité et de sûreté, il faut moins de nuisances sonores atmosphériques et offrir un meilleur bénéfice pour la société et la population. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'historique de ce qui s'est passé sur le contrôle aérien, notamment, pour arriver finalement à ce genre de position. Ça, vous voyez, c'est dans les années 80 et maintenant dans les années 2020. Voilà. Donc, il y a des différences. Les écrans sont plus grands, mais globalement, ça reste quand même similaire. Hein. Là, donc, des très anciens avions, vous voyez, alors, un cadran par fonction, typiquement un actuateur par fonction, et puis une intégration de plus en plus grande de chacune des fonctionnalités d'un avion dans un cockpit complètement intégré, voire avec ce qu'on appelle des HUD, donc des visions tête haute, jusqu'à, alors ça, ce sont des projets de nos collègues de Thales Avionics, donc, alors même si c'est 2020 ici, c'était le nom du projet, c'était un peu plus ancien que ça, mais avec des écrans très grands, très continus. Et donc notre difficulté à nous, en tant que concepteurs de ces systèmes-là, c'est que c'est un système critique, donc ça veut dire que si vous faites une erreur, les conséquences d'un mauvais fonctionnement peuvent être catastrophiques. Il y a cette fameuse symbiose dont j'ai commencé déjà à parler entre les opérateurs et le système, qui fait que le système, à la fin, est efficace, et donc ça, il ne faut pas le casser. Et puis, alors, il y a une problématique, c'est que le système ne peut pas être arrêté. Alors, en situation normale d'opération, avec le Covid, on a vu qu'on pouvait l'arrêter. Hein, mais quand on veut faire en sorte qu'il continue dans des conditions économiques normales, eh bien, on ne peut pas juste tout couper. On ne peut pas juste dire aux avions, vous arrêtez de voler. Et il faut tenir compte de l'existant. Donc, comment est-ce qu'on fait ce genre de choses-là? Alors, nous, notre approche, c'est de faire ce qu'on appelle de l'informatique interactive, c'est-à-dire une informatique qui soit complémentaire de l'informatique du calcul, et avec des principes d'interaction, des méthodes de conception et d'ingénierie. Donc on en a parlé aujourd'hui des méthodes, les principes d'interaction, Michel Baudon-Lafont vous en a parlé la semaine dernière, et puis du génie logiciel pour l'interaction, donc faire des systèmes informatiques qui ont été définis et réalisés spécifiquement pour l'interaction. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est des travaux qui ont été en partie réalisés donc, au CENA, donc, avec Wendy notamment, quand il était à Tismons, et puis ensuite à Toulouse, quand il est descendu à Toulouse. Et alors moi, j'ai dit, oui, en tant que concepteur du futur système, je suis chercheur, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui va créer quelque chose qui va être immédiatement utilisé dans les centres ou dans les cockpits d'avions. Donc ce que je vais vous montrer, c'est quand même, il y a une notion de recherche, et avec des choses nouvelles notamment, et c'est un peu différent d'une mission de soutien complète à une maintenance évolutive. Mais je vais quand même vous montrer un certain nombre de choses, et donc d'abord parler de cette fameuse interaction individuelle qui fait qu'on reste efficace pour interagir avec le système. Alors, le premier système que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui a été fait à la suite des travaux de Wendy, donc entre les travaux de Wendy sur le caméléon, donc le système à réalité augmentée qu'elle vous a montré, et puis le nôtre, donc, qui s'appelle Striptic, que je vous ai montré au tout début de ma présentation. Et entre-temps, en fait, il est apparu d'autres technologies, et donc notamment les écrans tactiles. Voilà. Et dans les années, dans les années 95, par exemple, entre 95 et 2000, a été créé ce système donc, qui s'appelle Digistrip, et dont l'idée était la numérisation des strips. Et donc avec un ensemble d'interactions qui était assez révolutionnaire à l'époque. Hein, c'était, comme l'a dit Wendy, hein, l'iPhone est sorti en 2007, donc c'était 10 ans avant, avec des gestes compatibles avec l'activité des utilisateurs. Par exemple, quand on veut dire un vol, il faut que tu montes un peu plus haut, il faut que tu descendes à un certain niveau. Alors l'interaction ici se fait compatible avec cette activité, c'est-à-dire que pour pouvoir monter, on fait un geste de monter comme ça, et hop, on a toutes les valeurs possibles au-dessus de la valeur courante. Quand on veut descendre, on fait le même geste en bas, et là, on a les valeurs possibles avec la valeur, les valeurs possibles en descendant. Donc ça, c'est ce qui rend rapide, on gagne des dizaines, des vingtaines de millisecondes, mais c'est ce qui fait que l'utilisateur, du coup, ne perd pas son temps à manipuler la machine et peut continuer à gérer un trafic élevé. Voilà, donc ça, par exemple, ce sont des entrées pour le cap, notamment. Souvent, les caps sont donnés en plus ou moins 5 degrés. Alors, il y a beaucoup d'animations aussi. Vous voyez dans cette... Alors, ça a recommencé, je crois. J'avance un peu. Alors, un autre aspect, c'est que avec ce genre de système, on peut demander à d'autres utilisateurs de venir. Alors ça rejoint la prochaine partie de ma présentation qui est sur les aspects dits collecticiels. Je reviendrai sur cet aspect-là. Alors, d'autres gestes, je vais avancer un petit peu. Alors ça aussi, ça c'est un aspect important, c'est que souvent, en fait, quand on fait des systèmes informatiques, on rigidifie les activités. Et le problème, c'est que souvent, en fait, les utilisateurs, ils ont adapté leur activité au système qu'ils ont et ils font des choses qui n'ont pas été prévues, en fait, par ce système. Alors, le strip papier, oui, vous pouvez écrire dans des cases spécifiques qui ont été, avec un certain nombre de règles, mais vous pouvez aussi écrire librement, au cas où il y a un problème qui n'ait pas été prévu. Et donc, le système ici réplique ce genre de choses-là, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'adapter leur usage et de faire des choses qui n'ont pas été prévues, et par exemple, d'écrire librement. Voilà. Et donc ça, tout ça, ce genre de caractéristiques, on ne le devine pas, en fait. Il faut aller le chercher, il faut aller voir avec les utilisateurs comment est-ce qu'on peut répliquer ce qu'ils savent faire et, évidemment, l'améliorer. Alors, j'avance un tout petit peu pour vous montrer ceci. Encore une fois, à l'époque, il faut se souvenir que souvent, ce qu'on disait des animations, c'était que c'était accessoire, en fait, et que ça ne servait pas à grand-chose, c'était pour faire joli. Donc, vous voyez ici, il y a deux interactions, c'est les mêmes interactions, mais ici, c'est avec animation et sans animation. Donc, je vais vous demander de bien regarder avec animation et sans animation ce que ça donne. Vous voyez comme on arrive à se rendre compte de l'effet de votre action avec animation et pas du tout de l'effet de l'action quand on est sans animation. C'est-à-dire que le strip s'insère quelque part, mais on ne sait pas où. Voilà. Et donc ça, en fait, Digistrip, c'était aussi une expérimentation pour faire de la conception participative qui impliquait aussi les designers. C'est-à-dire qu'il fallait voir à quel point les designers et le design d'interaction pouvaient améliorer les interactions. Et donc, effectivement, on se dit, ben, tiens, ça a l'air de marcher, mais encore faut-il le prouver parce qu'on ne nous croit pas. Donc, du coup, il faut faire des preuves expérimentales. Et c'est tout le métier, finalement, de l'interaction humain-machine, et que va vous montrer Wendy la semaine prochaine, c'est de répliquer un phénomène, donc par exemple ici, le fait d'avoir des listes qui bougent, et puis d'essayer de voir avec les utilisateurs s'ils sont capables, dans ce cas-là, par exemple, de dire où est-ce que le strip, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il atterrit, et quel est le type de ce strip. Et si vous regardez les expérimentations, elles montrent que sans animation, eh bien, on a très peu de réponses positives. Quand on commence à mettre du son, ça s'est amélioré. Et puis, petit à petit, quand on met de l'animation et du son, vous voyez, on a beaucoup de réponses correctes quand on fait des expérimentations de ce type-là. Et donc, c'est finalement cet ensemble de compréhension de l'activité, et puis ensuite de faire du design, et ensuite de vérifier expérimentalement, qui fait qu'à la fin, on a des systèmes qui sont un peu plus sûrs. Alors, tout ça aujourd'hui est utilisé, là c'est vraiment très très récent, c'est un système qui s'appelle BDR, qui est fait par notamment mes collègues, mais surtout des gens qui sont en centre, et donc pareil, vous voyez, alors on a toujours les strips, mais cette fois-ci, à Bordeaux, on a un environnement dans lequel les strips sont mis de façon électronique, et puis on a des systèmes interactifs ici qui vont nous permettre d'avoir des alertes un peu plus tôt sur des problèmes potentiels entre les avions. Et donc, du coup, là, c'est pareil, on réutilise tout ce qu'on a trouvé durant ces années-là. Et en termes d'interaction individuelle, donc je vous ai parlé des problématiques de fumée dans le cockpit ou de turbulence. Là aussi, on travaille alors non seulement sur les représentations, vous l'avez vu, sur les gestes, mais aussi sur ce qu'on appelle l'interaction tangible. Et donc le fait de remettre de la tangibilité dans le cockpit, on a effectivement le tactile, et on sait que dans certaines conditions, le tactile est difficile, il est difficile d'interagir avec, et peut-être que vous l'avez vous-même expérimenté dans les voitures récentes, où il y a plus en plus de tactile, et du coup, quand vous conduisez, c'est quand même assez difficile d'aller chercher des actions à réaliser, par exemple, et maintenant les constructeurs commencent à remettre des manières de poser sa paume, par exemple, ou d'avoir des boutons physiques, pour aider justement les utilisateurs à être plus efficaces dans leurs interactions. Et donc c'est ce qu'on a fait ici avec un système qui s'appelle Multiplier. Et alors ça ne se voit pas très bien ici, mais en fait c'est un écran qui se déforme. Et en fait, là on l'utiliserait dans ce cas-là entre deux pilotes, hein, dans un avion commercial, pour non seulement afficher des informations, mais faire en sorte qu'on puisse continuer à interagir et à sentir, y compris dans des environnements turbulents ou dans des environnements avec une visibilité faible, pour qu'on puisse continuer à interagir. Et donc ça, c'est grâce à la déformation et donc à l'utilisation finalement d'un média, d'une modalité d'interaction qui enrichit l'interaction et permet une plus grande bande passante entre les systèmes et les opérateurs. Voilà. Et ça, ce sont... Alors, Wendy a parlé de santé, et en fait, c'est un autre système critique, ça, la santé. Et en fait, on a, pareil, on a exporté les connaissances que nous avions sur le contrôle aérien et sur les interactions pour le contrôle aérien pour l'exporter typiquement dans la gestion des salles d'opération, donc pareil, dans un hôpital au Texas, là, en l'occurrence. Et en utilisant exactement les mêmes techniques, hein, c'est-à-dire qu'on va voir les utilisateurs, on leur demande quelles sont les informations qui sont affichées sur le tableau blanc actuel. Ils ont un grand tableau blanc sur lequel ils affichent l'ensemble des opérations qu'ils vont effectuer. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui sont quand même mises à la main parce que ça n'a pas été prévu, parce que tout à coup, vous voyez ici, attention, ce patient-là a un pacemaker. Attention, ce patient-là, il est allergique au latex, par exemple. Vous voyez. Et donc tout ça, ce sont des choses que l'on découvre lors des analyses de l'activité et puis qu'on crée des systèmes avec les utilisateurs pour pouvoir tenir compte de toutes ces contraintes de l'activité. Alors vous l'avez vu, j'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Je ne suis pratiquement pas arrivé à vous montrer une interaction, que ce soit celle-ci, mais dans toutes les interactions que je vous ai montrées dans l'aéronautique, où on a un seul utilisateur. Ça n'arrive pratiquement jamais. En fait, l'informatique interactive dans le système aérien, ce sont des interactions dites collecticielles. Alors, ça fait bizarre ce terme-là, mais j'aime bien ce mot, je le trouve joli finalement. Donc, collecticielle, ça veut dire quoi? Ce sont des interactions dont l'objet est justement de faire en sorte que les gens collaborent. Et on n'essaie pas de cacher que les gens collaborent. On fait, au contraire, en sorte que les gens collaborent. Donc, on l'a vu avec... toutes les études qui ont été faites, en fait, on l'a vu, les strips, ce sont un médium de communication. Donc, multimodal, verbe, geste, toucher, on se touche l'épaule, on est les uns à côté des autres, on se fait des signes, on a même on bouge la tête, etc. Et donc, on ressent ce que font les autres. Et ça représente, en fait, quand on fait des études, la communication non-verbale représente 50% des actes de communication. Alors, évidemment, on a une vérification mutuelle des actions réalisées à faire entre coéquipiers. Et on a une conscience mutuelle de la situation. Alors, conscience mutuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'est que je suis conscient des états et de l'action de ma coéquipière, par exemple. Mais ma coéquipière, elle sait que je suis conscient de ses états et de ses actions. Et moi-même, je sais, je suis conscient qu'elle est consciente de moi, que je suis consciente d'elle. Vous voyez? Donc c'est ça qui, à la fin, fait que la collaboration se passe bien et on a, finalement, c'est beaucoup plus que l'addition des deux. C'est ce qui fait qu'à la fin, on a la sécurité et la capacité du système aéronautique tel qu'il existe aujourd'hui. Et en plus, de toute façon, il faut un support pour plusieurs utilisateurs, donc non seulement les deux personnes qui sont prévues, par exemple, sur une position de contrôle, mais souvent, comme je vous l'ai dit, il y a de l'instruction, et donc ils sont plus de deux personnes, vous pouvez avoir trois personnes sur une position de contrôle, voire plus dans des situations d'orage. Alors, Une problématique, c'est que, vous avez vu, on a de plus en plus d'écrans, et puis on a importé dans le système de contrôle des technologies pour l'interaction individuelle. Donc des souris, par exemple. Et les souris, ça ne se partage pas vraiment. On a sa propre souris, surtout en ce moment. Donc ça ne se partage pas vraiment. Les écrans, ils sont un peu séparés aussi. Les claviers aussi, voilà. Donc du coup, tout ça a tendance à séparer petit à petit les interactions et à casser la collaboration qui pouvait exister auparavant. Et donc, du coup, on a conçu un système, on a fait une exploration d'un système dont l'objet était de faire en sorte de ramener des technologies qui permettaient, au contraire, d'enlever les frontières artificielles, les frontières accidentelles entre utilisateurs. Et donc, c'est basé sur une table multi-touch, donc une grande table multi-touch, qui permet à plusieurs personnes d'interagir. Alors, évidemment, avec des interactions de ce type-là, multi-touch, chose que ne permettait pas Digistrip. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent agir. Alors, on retrouve les systèmes de listes, etc. Donc, je vais pas. Voilà. Donc, j'avance un peu. Alors, tenez, voilà un exemple de ça. Je le remets là. Voilà. J'oriente un strip vers quelqu'un. Donc, le simple fait d'orienter un strip vers quelqu'un, c'est lui dire, sans lui dire, maintenant, j'aimerais que tu t'occupes de ce papier. D'accord ? Et sans lui dire, c'est important parce que l'organique, par exemple, il pourrait très bien dire, occupe-toi de ça, sans dire au radariste de s'en occuper, parce que le radariste, en fait, il est constamment occupé à parler au pilote des avions. On ne peut pas l'interrompre, on ne peut pas lui parler. Donc, vous voyez, ça, c'est un geste qui permet de communiquer et donc de collaborer. Alors, au-delà de ça, donc je vous ai parlé tout à l'heure des principes de conception. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on essaie de mettre en avant, c'est de créer, c'est-à-dire que ça fait partie de notre activité de designer et de chercheur, c'est de créer des nouveaux principes de conception. Donc là, surface partagée multi-touch, réification des actions d'instruments, donc ça va être l'interaction instrumentale que vous avez vue la semaine dernière. Et puis, là, il y avait quelque chose de nouveau qui était l'accomplissement partiel des actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, pardon, c'est ça normalement qui se lance. Alors, la vidéo a un peu de mal à se lancer. Voilà. Alors, ici, l'idée, c'est qu'on va faire une nouvelle clairance, c'est-à-dire, on va dire à l'avion, par exemple, tu vas monter ou tu vas changer de cap. Donc plutôt que de le dire directement sur le strip, on va faire des petites interactions, on va découper les interactions et faire du coup un accomplissement partiel de ces interactions. Donc là, on met ça dans un éditeur de trajectoire. Voilà, évidemment, la vidéo s'arrête, c'est dommage. Voilà. Maintenant, on peut agir et par exemple donner un nouveau cap. Voilà. Mais même ça, ce n'est pas encore donné. On le transforme en action à faire qu'on met dans une timeline pour plus tard. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, parce que ça permet à plusieurs utilisateurs de parvenir à un objectif qui est de donner un cap, mais à des actions différentes avec des gens différents. C'est-à-dire que quelqu'un peut préparer le début d'une action, donc par exemple dire « je prépare le cap », « je prépare quelque chose qui pourra être fait dans quelques minutes », et c'est une autre personne qui va effectivement exécuter l'action en prévenant le pilote. Vous comprenez ? Voilà. Donc c'est l'idée de ce genre d'interaction collecticielle qui est de dire on prévoit des interactions qui permettent de fluidifier les interactions entre personnes et donc à la fin de mieux répartir les interactions en fonction de la charge de travail de chacun. Voilà. Et tout ça, normalement, est censé augmenter la performance globale du système. Alors ça, c'était un aspect, interaction individuelle, interaction collecticielle. Et alors je passe sur autre chose maintenant, qui est l'interaction avec les automatismes. Donc évidemment, vous savez, l'informatique, c'est un programme d'automatisation de l'activité humaine, mais c'est aussi un programme d'augmentation de la capacité humaine, je vais y revenir. Mais les automatismes dans l'aéronautique, ça a été quelque chose d'important dès le début de l'aéronautique. Là, c'est les premiers systèmes d'autopilote, ça date des années 10, hein, 10, 20, premiers systèmes d'autopilote. Jusqu'à ce qu'on appelle les FCU, donc qui sont dans les avions d'aujourd'hui, donc qui nous permettent de garder des câbles, garder des vitesses, garder des taux de descente, etc. Le FMS, qui est un outil qui permet de donner des routes à des vols et de permettre à l'avion de suivre une route de façon tout à fait automatique, jusqu'aux ILS, donc ça, ce sont ces grandes antennes que l'on voit juste devant les pistes, qui permettent aux avions d'atterrir automatiquement. La bonne majorité du temps, on va dire, les avions peuvent atterrir automatiquement. Et puis, jusqu'à récemment, là, voilà, notre constructeur de la région toulousaine a réussi à faire décoller un avion de façon automatique, donc là, c'est le décollage, en utilisant, alors, non pas un système basé sur des antennes comme l'ILS, là, mais en utilisant notamment des technologies de visualisation automatique des pistes notamment. Voilà, alors ça, ce sont des essais ici. Tout le reste est opérationnel, tout ce que je vous ai montré. Ça, c'est nouveau. Alors ça, c'est pour l'aéronautique, enfin pour le bord, pardon. Et pour le sol, pareil. En fait, dans les années 60, le CENA, donc à l'époque, a travaillé sur l'automatisation du contrôle aérien. Alors au départ, l'automatisation, ça ne concernait pas vraiment le contrôle, ça concernait plutôt la gestion typiquement des plans de vol. Donc auparavant, les strips étaient édités par un certain nombre de personnes et ensuite distribués au sein des positions des centres de contrôle. Et tout le travail qui a été mené durant les années 60-70, ça a été d'automatiser cet aspect-là, automatiser le traitement des plans de vol, automatiser aussi, alors voilà, où, par exemple, on a ce genre de choses-là, c'est-à-dire c'était les premiers systèmes tactiles, on va dire, sur les positions de contrôle, qui permettaient d'avoir des informations sur les plans de vol et puis de les changer directement sur ce type d'interface. Alors, je ne vous montre pas les images radar, mais les images radar, c'est pareil. C'était l'automatisation du fait d'avoir un radar primaire sur lequel on recevait des informations d'avions qui ne possédaient rien pour l'envoyer, jusqu'à des radars secondaires qui étaient capables de suivre des avions et d'ajouter des informations, donc par exemple identifiant l'altitude, ce genre de choses-là. Voilà. Donc tout ça, ça a été le travail qui a été mené notamment par la CENA et l'ancêtre de NIRIA à l'époque. Jusqu'à maintenant, on se dit, étant donné les technologies dont on va disposer au sein des avions, peut-être que ce qu'on va pouvoir faire, c'est agir sur les trajectoires, et notamment en utilisant des trajectoires dites 4D, donc en trois dimensions plus du temps, et puis agir sur les positions des avions pour faire en sorte de fluidifier le trafic. Voilà. Donc ça, c'est les notions, on va dire, d'automatisme qui arrivent de plus en plus dans les systèmes aéronautiques, et notamment il y a eu un projet, alors c'était au début des années entre 2000 et 2010, d'ailleurs par un des par Jacques Villiers qui était un des directeurs du CENA dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, ça c'est une manière de voir les automatismes, c'est-à-dire de se dire on va les rendre subliminaux, c'est-à-dire que on va faire en sorte que puisque les systèmes aéronautiques à bord peuvent être contrôlés finalement assez finement, est-ce qu'on ne pourrait pas ralentir, accélérer les avions, mais de façon très très subtile, pour que à la fin le trafic passe sans que finalement on touche à rien. Voilà. Donc ça, c'était une manière de voir les automatismes qui est toujours en cours, je pense, dans la tête des gens, mais qui nécessite pour autant d'avoir une infrastructure complètement développée. C'est-à-dire que c'est le problème, si vous voulez, de l'aéronautique, mais comme tout grand système, c'est qu'on a des avions, on a des infrastructures au sol qui existent, qui sont là depuis 20-30 ans, et on ne peut pas du jour au lendemain dire tous les avions vont être équipés de quelque chose qui va réguler leur vitesse. C'est un problème économique, c'est un problème de sécurité, donc on ne peut pas faire ça. Donc du coup, c'est plutôt pour le futur. Là, c'était un exemple d'image radar dans lequel on représentait les avions en bleu qui étaient équipés et qui pouvaient éventuellement subir des variations de vitesse. Et là, je vais vous montrer un autre projet. Donc, l'objectif est inverse, en fait, dans ce projet-là. Là, c'est une étude où on se dit, les automatismes, un des problèmes, en fait, c'est leur prédiction. C'est de voir comment est-ce que ça va se comporter et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et dans ce projet que nous avons mené avec un certain nombre de collègues, l'idée, c'était de faire en sorte que les automatismes soient, en fait, visibles. Au contraire de Erasmus, c'est faire en sorte qu'on puisse voir ces automatismes. Et donc, qu'on puisse les prédire. Alors, pour pouvoir faire ça, donc je reviens sur le thème du cours, qui est la conception participative. Donc là, c'était avec les contrôleurs de Malte, donc l'aéroport de Malte, en tour. Et donc, du coup, ce sont des gens qui, vous voyez, ils contrôlent comme ça, eux. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de... Alors, évidemment, ils ont une image sol, une image radar du trafic au sol, et puis sur les environs. Pour vraiment réguler le trafic, ils ont des tout petits strips, vous voyez, de ce genre-là, voilà. Et ils ont ce genre de choses-là aussi, vous voyez, Tango Closer. Tango, c'est une piste. Donc du coup, pour dire que la piste est fermée, ils prennent ce truc-là et pof, ils le posent sur l'image de la piste qui est ici, voilà. Alors pourquoi elle est fermée? Ça peut arriver, quoi. On a des incidents, vous savez, à Malte, il fait chaud, des fois, on a des gros avions, quand ils démarrent le réacteur, ça crame l'herbe et pof, ça fout le feu. Donc ça arrive, voilà. Et Malte aussi, il se trouve que c'est l'endroit principal en Europe pour tout ce qui est feux d'artifice. Donc, du coup, quand vous avez des feux d'artifice un peu partout en été, il y a des endroits, il ne faut pas passer à ces endroits-là, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose aussi qu'on spécifie avec ce genre d'objet. Décidément, j'ai un peu de mal avec la vidéo, mais... Voilà. Voilà. Et alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des séances avec eux, donc pour définir les scénarios tels que je vous les ai expliqués, là, vous avez vu, le scénario du feu d'artifice, le scénario de... Il y a le feu sur une piste, donc en attendant, elle est fermée. Ou il y a des essais, parce que c'est aussi un centre de maintenance, donc il y a un essai sur telle ou telle partie de l'aérodrome, etc. Donc on définit ces scénarios, et ensuite on définit comment pourrait se passer ce scénario-là avec des nouvelles technologies automatiques. Et donc on le fait avec les techniques qu'a montré Wendy, donc du papier, du crayon, c'est parce que les utilisateurs, on les a, mais ils sont très pris, donc on ne les a pas souvent, et il faut en profiter un maximum. Et donc si on fait des choses de type technologique avec des PowerPoint, ou etc., on risque de perdre du temps à manipuler l'outil plutôt qu'à créer des nouveaux scénarios. Donc on crée ces scénarios, on crée des nouvelles interactions sous forme de prototype papier qu'on filme avec des vidéos, et ensuite... Alors là, le projet, l'idée, encore une fois, n'est pas de faire quelque chose d'opérationnel. L'idée, c'est d'explorer des idées de conception et des principes de conception. Ici, c'est des principes de conception d'automatisme sur un aérodrome. Et alors, l'idée aussi qu'on avait en tête, c'était que non seulement... Enfin, ce qu'on voulait faire, c'était faire en sorte que les utilisateurs puissent prédire les algorithmes et les automatismes et leurs comportements, mais voir qu'ils puissent... on se disait que la compréhension serait d'autant meilleure que les automatismes auraient été eux-mêmes définis par leurs futurs utilisateurs. Donc c'est la conception participative des automatismes. Et pour pouvoir faire ça, il leur faut des outils utilisables, c'est-à-dire que les contrôleurs ont de plus en plus de compétences en informatique, grâce à la reconnaissance de l'informatique, notamment en tant que science. Donc on a de plus en plus de gens qui sont formés à l'informatique, pour autant ce ne sont pas des informaticiens. Mais... ils savent faire des choses. Et donc l'idée, c'était de dire, ben, on va rendre utilisable la représentation de programme. Par exemple, et là, je vais essayer de ne pas refaire la vidéo, voilà. Donc en utilisant ce qu'on appelle un langage visuel. Et donc un langage visuel qui va nous permettre de spécifier des automatismes. Alors, je vous montre des exemples. Ici, on va utiliser une zone qui est celle de la piste principale. Voilà. Et là, on va dire... Ben, dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans cette zone, on va lancer une alarme. Voilà. Et donc, vous voyez, là, on va prendre un vol, on va la mettre dans cette zone, et ça va déclencher l'alarme. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un outil de création d'automatisme de ce type-là. Alors, on voit ce qu'on peut faire avec. Donc, imaginons maintenant qu'on a un vol qui arrive. Donc, s'il y a un vol qui arrive et que la piste est déjà occupée, il faut faire ce qu'on appelle une remise des gaz, c'est-à-dire que l'avion doit repartir, d'accord ? Parce qu'il ne peut pas atterrir alors que la piste est déjà occupée. Donc, vous voyez, on a repris ce petit strip occupied parce que les utilisateurs en ont besoin. On ne sait pas quand est-ce qu'une piste peut être utilisable ou non. Donc là, ce scénario-là reprend ce principe-là. Et puis vous voyez que dès qu'un vol arrive dedans, bah, paf, on déclenche une alarme. Et là, le pilote, à un moment, il le voit aussi. Hein, il voit que sur la piste, il y a un avion qui l'occupe. Alors, d'autres exemples. Ici, on a une zone qui va concerner le parking. Alors là, il faut gérer le parking. Donc ça, c'était un projet César. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, une des principales préoccupations de l'aéronautique, c'est le forçage du réchauffement climatique. Et donc, du coup, on essaie de voir à quel point on peut modifier des stratégies d'occupation de différentes zones d'aéroports pour, par exemple, baisser la consommation de fuel. D'accord ? Donc, si on choisit une stratégie de baisse de consommation de fuel, on va garder un maximum d'avions au parking et on va les envoyer sur la piste au dernier moment. D'accord ? Le problème, c'est que si le parking est trop occupé, alors on ne peut plus recevoir des vols, par exemple. Alors, c'est ce que fait cette interaction-là. C'est qu'elle... Donc là, vous avez vu, quand le vol est rentré ici, ça a modifié la position de la petite pastille jaune dans la jauge, ici, et donc cette pastille indique le nombre d'avions qu'il y a dans le parking. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va déclencher quelque chose quand la pastille jaune rentre dans une zone spatiale qui concerne la jauge. Alors, hop. Et là, vous allez voir, ça va déclencher un automatisme ici. Donc vous voyez qu'ici, on a une stratégie de gestion de l'aérodrome qui est de consommer moins de fuel. Eh bien, comme le parking est trop occupé, alors on va passer dans une stratégie où on va au contraire maximiser l'utilisation de la piste de décollage et d'atterrissage. Alors voilà, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir, la pastille jaune va hop, se déplacer et donc modifier la stratégie automatiquement. Alors évidemment, la modification d'une stratégie, normalement, elle ne se fait pas automatiquement. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des opérateurs spécifiques où on va remettre l'humain dans la boucle. C'est-à-dire qu'ici, plutôt que de déclencher automatiquement le changement de stratégie, on va mettre en route un dialogue avec l'utilisateur, donc une petite boîte de dialogue, qui va demander à l'utilisateur de confirmer le changement de stratégie ou pas. Voilà. Alors, d'autres exemples où... typiquement, là, quand vous faites du contrôle, en fait, il faut pas rigidifier trop les règles, il faut qu'elles soient cohérentes avec l'activité. Donc, par exemple, ici, souvent, en fait, les pistes sont utilisées sur cet aérodrome, les pistes sont utilisées pour le décollage et l'atterrissage. Et donc là, on va montrer que c'est pas parce qu'un avion est encore sur la piste qu'on peut pas commencer à faire une action d'un autre vol. Donc, un vol qui va remonter la piste pour pouvoir s'aligner et ensuite décoller. Et ça peut se faire à la moitié de la piste, vous voyez. Donc ça veut dire que quand l'avion a franchi cette frontière-là, donc sort de cette zone, ça veut dire qu'on peut dire à ce vol automatiquement, eh bien, je te fais rentrer dans la piste, enfin, je te donne l'autorisation, hein. On a juste éteint les lumières rouges pour donner l'autorisation au pilote de remonter la piste pour pouvoir décoller. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, il y a des aspects. Alors, si quand même, il y a quand même un aspect, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour voir, finalement, puisque ce qu'on veut, c'est prédire les automatismes. Donc, on a plusieurs manières de permettre à l'utilisateur de, à la fois, voir quel est l'automatisme qui est en route, et puis... alors, c'était pas là, excusez-moi, je vais essayer de... Voilà, c'était plutôt cet aspect-là. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut... prédire le comportement du futur. Donc là, vous voyez, il y a un vol qui arrive, et là, on se dit, ok, je saisis ce vol-là, et je le fais glisser le long de sa trajectoire, et du coup, je peux voir le futur du trafic tel que le système l'a prédit, et donc le futur du comportement des automatismes tel que le système le prévoit. Et donc, du coup, l'utilisateur peut éventuellement se construire une certitude sur le fait que tout va bien se passer. Okay. Donc vous voyez, c'est vraiment une démarche complètement différente de celle que je vous ai montrée, qui est celle d'Erasmus, où on cache les automatismes. Là, au contraire, on essaie de les montrer, de les rendre explicables et prédictibles. Voilà, bon, je vous passe les principes de design. Ok, alors, je vous ai montré un certain nombre de projets qui ont utilisé la conception participative pour faire des systèmes dans l'aéronautique. Alors, je vous ai montré Digistrip. Digistrip, en soi, n'a pas été rendu opérationnel. Ça a donné naissance à d'autres projets, donc, par exemple comme Vigistrip, qui a été un temps pensé comme étant pouvant faire partie de l'opérationnel. Ça n'a pas été le cas non plus. En revanche, Digistrip a été racheté, entre guillemets, en tout cas une licence d'utilisation qui a été vendue à un industriel autrichien qui s'appelle Frequentis et qui en a fait une version industrielle, donc Smart Strips, qui est utilisée, si je ne m'abuse, dans les systèmes de contrôle du Royaume-Uni. Voilà. Donc effectivement, il y a eu un transfert. Au sein de la DGAC, ces techniques ont permis de conception participative ont permis, par exemple, la création de ce système qui s'appelle EPOC, donc qui est un système qui permet de faire du rejeu de situations passées pour pouvoir analyser ces situations passées, notamment en cas d'incident. Donc ça a été un projet qui a été mené par Hélène Gaspard-Boulin, qui faisait partie aussi de l'équipe du CNA à l'époque et donc a été transférée, si vous voulez, à la DGAC en elle-même. Et en fait, dans les années où le CVNA a fait Digistrip, Il y a des chercheurs qui se sont dit que ben, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser les techniques qu'ils avaient apprises, notamment de Wendy. Hein. Stéphane avait travaillé aussi, c'était Stéphane Chatty notamment, qui travaillait avec elle au CENA à Tismons. Et il s'est dit que c'était suffisamment mûr pour pouvoir être exporté dans l'industrie. Et donc, il a créé une société qui s'appelle Intuilab et qui a créé plein de projets, dont celui-ci qui a une étoile de design, qui est ce qu'on appelle un departure manager, donc la gestion des départs et des arrivées de vol. Celui-ci qui est, je crois, quelque chose qui a été fait avec Thales et qui est l'ancêtre du système que vous avez vu tout à l'heure, là, avec les grandes... le cockpit avec les grands aplats d'écran tactile. Donc, ça a été créé avec les techniques qui sont issues du CENA. D'autres exemples qui ont été industrialisés, enfin, en tout cas, qui ont servi à l'industrialisation, je ne sais pas si c'est toujours en cours. Donc là, c'est encore un système qui a été créé par Intuilab donc pour la gestion de la construction de grands aéronefs, donc ici chez Airbus. Voilà, donc la conception participative a permis de créer des systèmes qui sont effectivement utilisés en partie, mais pour autant, on a des difficultés quand même à faire en sorte de faire cet acte de transfert entre ce qu'on appelle les innovations et puis l'arrivée dans les systèmes critiques. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à ce genre de problème-là, et donc notamment par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'ingénierie participative des exigences. Donc, en fait, le frein à l'innovation, il est dû à plusieurs choses. Là, ce que je vous mets, c'est quelques exemples du frein à l'innovation. Comme on l'a vu, les systèmes qu'on utilise sont critiques. Il ne faut pas qu'ils tombent en panne. Et il faut assurer une certaine sécurité. Et donc, pour ça, il faut faire des analyses de sécurité. Donc, ça, ce sont des choses qui nécessitent un certain nombre de compétences et du temps. Il y a aussi les aspects niveau d'assurance, c'est-à-dire que quand on crée un logiciel qui va être utilisé comme ça en route, pour gérer des avions dans des contrôles aériens ou à bord, il faut faire en sorte que le process de design et de développement, on va dire, du logiciel suive des normes, notamment, c'est ce qu'on appelle DO-178 dans les versions américaines, ou DO-278 pour le sol. Et donc là, c'est pareil, ça nécessite un certain nombre de compétences et puis beaucoup de temps. Et puis, on a cet aspect que les grands systèmes sont conçus ou réalisés avec des relations client-fournisseurs. C'est-à-dire maintenant, les systèmes sont tellement gros qu'on ne peut plus les réaliser en interne. Donc, on a des clients et des fournisseurs. Et en fait, les relations entre clients-fournisseurs ont un impact, finalement, sur la qualité du résultat final. Et c'est une des difficultés, finalement, qu'on rencontre. Alors, les contrats se font, vous devrez se faire sous la forme d'exigences. C'est comme ça que ça marche dans l'ingénierie système. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est que quand on conçoit des solutions, quand on fait du design avec notamment des utilisateurs et avec d'autres personnes, on s'aperçoit en fait que finalement, on réfléchit aussi au problème, d'accord ? Et ça remet la compréhension du besoin dans la boucle, et c'est ce qui permet de soulever ce qu'on appelle les exigences cachées. C'est-à-dire que si vous faites mal cette partie-là, il y a un certain nombre d'exigences que vous ne voyez pas, mais qui sont dans l'air, mais que personne ne connaît, mais qui sont révélées par ces techniques de conception participative. Et c'est pour ça que cette notion d'exigence, en fait, est centrale, en tout cas dans la thèse qu'a proposée Hélène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exigence ? C'est ça, hein. Ce sont des phrases comme celle-ci, vous voyez, afin d'atteindre un but, le système permet à l'utilisateur de réaliser blablabla, une tâche avec telle mesure d'utilisabilité et telle valeur de mesure d'utilisabilité. Et c'est ce contrat que l'on doit faire entre client et fournisseur pour pouvoir réaliser un système qui, à la fin, sera vraiment utile. Voilà, donc je vous ai mis un exemple, une instance d'exemple pour un système comme Digistrip. Alors, l'ingénierie participative des exigences, ça ressemble à la conception participative. Vous voyez, alors, il y a quand même des choses évidemment supplémentaires. Donc, on fait des interviews, des observations, on exprime les exigences de haut niveau à partir de ces observations. Ensuite, pour chaque exigence, on fait des scénarios et une analyse. Et ce qui va nous permettre de justifier les exigences et ce qui va permettre aux fournisseurs de comprendre pourquoi finalement il y a ces exigences-là. Et puis, on va faire de l'idéation du prototypage et de la transformation en exigences détaillées. Voilà. Et c'est ça qui va permettre cette approche de sécurité. Alors, un exemple de ça, on a travaillé il y a quelques temps de ça sur un avion électrique qui s'appelle IFAN, donc qui était destiné à l'instruction, et notamment l'instruction à l'ENAC. Et on a conçu, alors je vous le montre, voilà, on a conçu cette interaction. Alors, je vous montre juste l'usage de cette interaction. Donc, vous voyez, c'est un iPad. Et la personne qui est à gauche ici, c'est un instructeur. C'est l'utilisateur que l'on vise. L'instructeur qui va préparer un exercice de vol pour des élèves pilotes. Et la problématique qu'on se pose en aviation électrique, c'est l'énergie. On n'a pas beaucoup d'énergie, donc il faut gérer cette énergie. Et donc, ce concept-là consiste à gérer l'énergie avec une jauge d'énergie qui, vous voyez, est séparée en plusieurs activités qui vont correspondre à chacune des activités de la leçon particulière d'instruction. Et ça, c'est pour la préparation avant mission, mais ça peut servir aussi pendant la mission pour vérifier qu'on est toujours dans les clous au niveau de l'énergie, et puis pour l'analyse de la mission à la fin. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est ainsi, voilà, en tant qu'instructeur, on crée ce qu'on appelle des legs. Donc vous voyez, on va voler de cet endroit-là à cet endroit-là pour faire un exercice. Et puis on va ajouter des exercices comme ça jusqu'à s'apercevoir que bah, ça ne passe plus. Et donc du coup, il va falloir régler l'exercice pour que ça passe à nouveau. Donc par exemple en supprimant ou en manipulant directement la quantité d'énergie nécessaire pour effectuer un exercice particulier. Voilà. Donc on va dire, ben non, on ne va pas monter, on ne va pas trop descendre, on va régler l'énergie qui est nécessaire pour cette partie de l'activité. Et puis on va, voilà, on va manipuler directement aussi les endroits par où on va passer pour faire en sorte que finalement, à la fin, ça passe, y compris en prenant en compte le retour. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en discutant avec les utilisateurs, ils se sont posés la question, oui, mais attention, le vent, qu'est-ce qui se passe quand il y a du vent? Après tout, quand on est face au vent, on va dépenser plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il a fallu créer une interaction spécifique qui nous permet de voir ce qu'il se passe quand le vent change de direction ou change de force, et donc s'apercevoir que ben, ça passe ou ça passe pas. Et donc vous voyez, c'est ce genre d'interaction à base de manipulation directe ou d'instruments qui permet aux utilisateurs de finalement préparer les exercices et ensuite les mettre dans le cockpit ici d'IFAN. Voilà. Alors pareil, pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut aller dans les centres d'instruction. Là, en l'occurrence, c'était à Carcassonne. Discuter avec les instructeurs et créer, voir ce qui se passe en simulation et en formation. Et puis créer finalement ces artefacts dont parlait Wendy pour pouvoir discuter de ces artefacts avec les utilisateurs eux-mêmes. Et c'est ce qui passe ici. Voilà. Et tout ça, en fait, est transformé ensuite en exigence dans un document qui va en plus décrire tous les cas d'utilisation avant, après le vol et pendant le vol. Et tout ça est ensuite transmis, évidemment prototypé, mais transmis sous forme d'exigence au constructeur, en l'occurrence c'était Airbus, sous forme d'IHM, et en plus sous forme de brevet. Il se trouve que ça a fait l'office d'un brevet. Et donc, oui, la conception participative, souvent on entend les utilisateurs, c'est un frein à l'innovation. Alors ça dépend, ça permet d'avoir des innovations. Mais pour ça, il faut que les ingénieurs qui suivent le process de conception le fassent en mobilisant les techniques appropriées, donc prototypage, technique de créativité, comme on l'a vu, et avec un certain nombre il faut avoir un peu de métier pour faire ce genre de choses-là. Il faut suivre ces techniques-là pour pouvoir effectivement faire en sorte que l'innovation émerge du travail avec les utilisateurs. Voilà, alors il est 11h56, donc je n'aurai pas le temps de passer à la dernière partie, mais ce n'est pas grave. Donc si on devait faire un résumé, c'est la conception participative avec des utilisateurs finaux, hein, c'est ça qui est important, plus que des utilisateurs experts. Alors c'est toujours difficile, hein, on a toujours des gens experts qui sont nommés pour discuter avec nous, et c'est toujours très difficile d'atteindre les vrais utilisateurs. Mais d'un autre côté, on a de la chance à l'ENAC, parce qu'on a à notre disposition alors, de l'instruction, qui sont juste à côté de nous, hein, on forme les contrôleurs, on forme les pilotes, on a quand même des contacts avec les centres de contrôle, donc on peut arriver à interagir avec les principaux intéressés. Il faut des experts en IHM et design d'interaction, c'est-à-dire qu'on ne va pas, comme l'a dit Wendy, on ne va pas demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent, il faut des gens qui connaissent des solutions, donc qui maîtrisent les techniques propres à l'interaction, les représentations graphiques, les principes de design, et puis qui quand même maîtrisent les capacités de perception, d'action et de cognition des opérateurs. Et puis, il faut des experts en conduite de processus. C'est-à-dire, si on ne connaît pas cet aspect-là, effectivement, on peut traîner longtemps avant de trouver des choses intéressantes à faire. Voilà. Mais surtout, il faut qu'ils soient capables de transformer les résultats en exigences. Et puis, à la fin, il faut des experts en informatique interactive, des gens qui sont capables de coder ces interactions. Et donc, du coup, typiquement, de la formation ou ce genre de choses-là. Voilà. Alors, J'ai beaucoup parlé d'innovation et beaucoup d'innovation disruptive. Enfin, ce que je vous ai montré, effectivement, vous pouvez vous dire, mais attendez, on va pas utiliser ces automatismes demain. Par exemple, ce que je vous ai montré dans un vrai système de contrôle. Encore une fois, là, les exemples que je vous ai montrés sont la plupart issus de la recherche. C'est-à-dire que nous avons une mission de faire des choses nouvelles. Et donc, du coup, forcément, un peu qu'ils paraissent hors de portée. Mais la conception participative, ce n'est pas simplement ça, c'est aussi des petites innovations qui font qu'à la fin, le système est plus utilisable par des utilisateurs qui en ont besoin. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de faire la maintenance, ce qu'on appelle la maintenance évolutive, mais qui innove par petites touches, mais qui fait qu'à la fin, on a un ensemble de systèmes qui permettent d'avoir finalement un système qui marche aujourd'hui plutôt pas mal. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là et je vais passer malheureusement tout cet aspect-là, mais ce n'est pas grave. Un tout petit peu de crédit pour les photos que j'ai prises à ces deux documents que je vous invite à voir si vous voulez voir l'histoire des systèmes informatiques dans l'aéronautique. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Je vous montre une petite interface qui vole vraiment et qu'on a réalisée, elle, qui est dans un hélicoptère électrique, voilà, qu'on réalise à l'ENAC. Alors, il n'y a pas le son, ça fait quand même un peu de bruit, mais ça marche. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention.